Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Graines de libriste, la parole aux jeunes qui œuvrent pour le logiciel libre et les libertés informatiques. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre une étudiante et un ancien étudiant fraîchement diplômé de l'ISTIC, la faculté informatique de Rennes. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, les fracturés du numérique et une nouvelle chronique de Xavier Berne pour découvrir le droit d'accès aux documents administratifs aujourd'hui sur la transparence, comment rendre transparents les marchés publics. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu de l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 17 octobre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Thierry Houleville. Salut Thierry.
Bonjour, bonjour à tous.
Et nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous.
Dans une nouvelle chronique que nous proposons en cette saison 7 de Libre à vous, Xavier Berne nous propose de découvrir le droit d'accès aux documents administratifs. Dans ce deuxième épisode, comment obtenir la transparence sur les marchés publics grâce au droit d'accès aux documents administratifs. Normalement, nous avons avec nous Xavier Berne à distance. Est-ce que tu es avec nous, Xavier ?
Oui, je suis bien là, bonjour.
Bonjour, eh bien nous t'écoutons.
Ok, alors bonjour, et aujourd'hui, oui, je vais vous parler en fait des marchés publics et vous expliquer en fait comment est-ce que vous pouvez obtenir de précieuses informations sur les nombreux marchés publics que passent chaque jour les administrations, que ce soit vos mairies, des ministères, des hôpitaux, etc.
C'est assez vaste effectivement les marchés publics, et qu'est-ce que ça recoupe plus concrètement ?
Alors des marchés publics, il y en a vraiment dans tous les domaines, typiquement pour l'achat de matériel, les lampadaires qui illuminent nos rues, aux voitures de fonction du président, en passant par, je sais pas, les bureaux des écoliers ou le matériel médical qu'il y a dans les hôpitaux. Et puis aussi, il y a le matériel, mais il y a aussi tout ce qui est prestations de services pour du ménage, de la restauration, des campagnes de communication. On a aussi pas mal entendu parler des fameux rapports des cabinets de conseil tels que McKinsey, qui avait été commandé par le gouvernement et qui avait été épinglé notamment par une commission d'enquête sénatoriale. Et bien entendu, et je pense que ça intéressera beaucoup de nos auditeurs, de nombreux marchés publics ont trait aux achats de logiciels, et j'espère qu'on aura peut-être le temps d'y revenir un petit peu plus tard.
Effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup à l'April. Que peut-on savoir grâce à ce droit d'accès aux documents administratifs ?
Alors le droit d'accès aux documents administratifs, il permet à tout citoyen d'obtenir une multitude de documents publics, dits administratifs. C'est un droit qui est malheureusement trop peu connu, alors qu'il est totalement gratuit à exercer et qu'il est à la portée du plus grand nombre. Il n'y a pas besoin de se justifier, ni de faire de quelque chose de très long, ni de très formel. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer qu'on propose sur madada.fr et notamment sur notre forum des modèles de demandes très remplis pour vous aider à faire des demandes.
Et oui, j'ai oublié de préciser en introduction que tu es le délégué général de cette plateforme associative Madada. Tu pardonneras cet oubli.
Non, c'est pas grave. Et effectivement, donc on a cette plateforme qui permet de vous aider à faire vos demandes d'accès. On a une base avec quasiment 50 000 administrations qui sont référencées. Vous avez juste à cliquer sur l'administration qui vous intéresse. Et après, on vous propose un formulaire de demande pré-rempli. Et en quelques clics, on va dire, votre demande est envoyée à l'administration. Et donc typiquement dans le domaine des marchés publics, on a un vrai vivier de documents administratifs. C'est vrai que souvent on nous dit c'est bien sympa ce droit d'accès aux documents administratifs, mais concrètement ça va servir à quoi ? Et sur les marchés publics, il y a vraiment une source d'information qui est très importante. Pourquoi ? Parce que les règles de passation des marchés publics sont très codifiées. Par exemple, lors de la première étape, en fait, qui est que lorsqu'un acteur public veut acheter quelque chose, il doit passer comme une annonce, c'est ce qu'on appelle un appel d'offres. Et déjà, à ce stade de la procédure, vous avez vraiment des documents très intéressants qui sont produits par l'administration. Par exemple, il y a le cahier des clauses techniques particulières, dit le CCTP dans le jargon, où est-ce que l'administration explique en fait tout ce qu'il y a derrière le marché, qu'est-ce qu'elle recherche aussi comme produit derrière ou comme service. Donc on peut imaginer par exemple la gendarmerie ou la police qui souhaiterait recourir à des drones intelligents reposant sur des dispositifs d'intelligence artificielle, donc dans ce fameux document, le CCTP, les forces de l'ordre pourraient expliquer que ce qu'elles attendent comme solution technologique, préciser les matériaux qui sont souhaités, ou les logiciels, les dimensions du drone, le poids du drone, le nombre de drones, les montants aussi qu'elle est prête à y mettre, etc. Et donc ce fameux CCTP fait partie des documents administratifs qui sont librement accessibles à tous sur simple demande. Ça, c'était pour la première étape des marchés publics. La deuxième étape, en principe, c'est le choix du prestataire. À ce stade, on va pouvoir solliciter des documents qui vont permettre en fait de comprendre pourquoi les pouvoirs publics ont choisi telle entreprise plutôt qu'une autre. Donc là, dans la liste, on va dire des documents que vous pouvez demander, se trouve bien entendu la liste des candidats admis à présenter une offre, mais vous pouvez aussi et surtout demander la méthode de notation utilisée, qui est très importante, ou même les offres de prix globales qui ont été faites par les candidats. Ça va permettre de savoir quels étaient les prix proposés par les différents candidats, qu'ils étaient retenus d'ailleurs ou non. Et enfin, la troisième étape, c'est celle de l'exécution du marché en lui-même. Et là, vous pouvez obtenir la communication des bons de commande, des factures, des éventuels avenants ou des procès-verbaux de réception. Voilà, j'espère que vous l'aurez compris, il y a une vraie mine d'informations pour qui s'intéresse à un marché public en particulier. C'est vrai qu'en pratique, c'est surtout utilisé par des entreprises qui cherchent à comprendre pourquoi leurs offres n'ont pas été retenues. Mais pour toutes les personnes qui sont animées par une cause en particulier, typiquement dans un cadre associatif, il y a vraiment un outil très précieux qui s'offre à vous.
Et tous ces documents peuvent donc être obtenus très facilement ?
Alors en théorie, oui. Il faut prendre quelques minutes pour envoyer sa demande par courrier ou par mail, ou encore plus rapide en utilisant notre plateforme associative. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et aussi, ce qui est important quand vous faites vos demandes, et que j'ai pas forcément dit jusqu'à présent, c'est qu'il est important de bien lister tous les documents que vous souhaitez obtenir. De dire, par exemple, je veux le CCTP, je veux la liste des candidats, je veux les offres de prix, etc., etc. Et une fois la demande envoyée, l'administration dispose en principe d'un délai d'un mois pour vous répondre. Voilà, je dis en principe parce que c'est pour la théorie que c'est comme ça. En pratique, les délais sont parfois un petit peu plus longs, surtout si vous demandez beaucoup de documents. Et il y a une grosse problématique qui est qu'il y a des administrations qui ne répondent pas. Alors, il ne faut pas hésiter à les relancer, voire à saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui est une autorité indépendante qui fait office en fait de médiateur entre les administrations et les citoyens quand il y a une difficulté d'accès à des documents publics. Autre problématique, il se peut qu'en cas de réponse favorable, certaines informations soient occultées, notamment au nom de la protection de la vie privée ou même du secret des affaires. Donc la loi le prévoit, c'est normal. Malgré tout, il ne faut pas se laisser abattre et faire bien valoir ses droits, c'est important parce que la doctrine de la CADA précise globalement que la plupart des documents que je vous ai cités aujourd'hui sont vraiment intégralement communicables. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et on mettra un peu plus de documentation, je pense, sur la page de l'émission pour que vous puissiez un petit peu vous documenter en cas de besoin. Il y a une autre chose importante que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faut bien attendre que le marché public ait été conclu pour obtenir les documents qui s'y rapportent. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'effervescence il n'y a pas très longtemps autour d'un marché lancé par le ministère de l'Éducation nationale qui souhaite en fait acquérir des licences Oracle pour plus de 60 millions d'euros. Il va falloir attendre l'issue de cette procédure pour solliciter les documents qui sont afférents à ce marché. Mais je pense que voilà, vous êtes désormais mieux armés pour les obtenir. Et un dernier petit conseil, si vous vous intéressez à un sujet en particulier, mais que vous ne savez pas trop ce qui est conclu comme marché public, c'est très simple, je vous invite à aller parcourir les annonces d'attribution de marché public, notamment sur le site marché-public.gouv.fr, qui sera une vraie mine d'informations. Vous aurez l'intitulé du marché, le nom du commanditaire, bref, de quoi débuter une belle demande d'accès à des documents administratifs.
Très beaux conseils. Alors, on peut même mettre des alertes et ça nous envoie par mail si un mot-clé a été utilisé dans une offre et ça nous permet voilà, de savoir ce qui se passe, pas tout à fait en temps réel, mais de manière assez rapide, notamment de voir passer les appels d'offres, comme tu disais, à l'Éducation nationale pour des licences Oracle, un appel d'offres dont on peut, je pense, assez légitimement poser la question du respect plein et entier du droit de la commande publique. Mais enfin, bon, ça, c'est toute une autre histoire. En tout cas, merci Xavier. Pour retrouver effectivement toutes les ressources évoquées sur la page de l'émission. Je te souhaite une très bonne fin de journée, Xavier, puis je te dis au mois prochain pour une nouvelle chronique.
Merci, à bientôt, au revoir.
Au revoir. Et nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause, nous abordons notre sujet graines de libriste, mais avant cela, nous allons écouter La valse des vieux sabots par les Bretons de l'Est. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Venons d'écouter La valse des vieux sabots par les Bretons de l'Est, disponible sous licence libre Art Libre. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons Attribution, CC BY, Creative Commons Partage dans les conditions, CC BY SA, ou encore, comme c'est le cas de cette pause qu'on vient de vous proposer, licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Vous écoutez toujours Libre à vous sur la radio Cause Commune. Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal, une émission Graines de Libriste, où on laisse la parole à des jeunes personnes qui s'engagent pour le logiciel libre et les libertés informatiques. Je vais avoir à cette occasion plaisir à laisser la parole à Rémi Robillard, avec moi en studio, développeur fraîchement diplômé de l'ISTIC, la faculté d'informatique de Rennes, également contributeur à des projets libres, notamment OpenStreetMap. Rémi Robillard échangera avec Charlotte Thomas, étudiante en licence 3 à l'ISTIC. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc bonjour Rémi.
Bonjour Étienne.
Et donc tu as accepté d'animer cet échange voilà, dans cette thématique graines de libriste. Donc on te remercie de nous avoir rejoint en studio pour cela et je te laisse la parole.
Merci beaucoup, mais j'aimerais en premier remercier aussi l'April de m'avoir donné cette occasion de venir faire cette émission et parler du libre au sein de l'université, qui n'est pas forcément quelque chose dont on peut penser tout de suite quand on pense au libre, vu qu'on va plutôt penser parfois à des vieux barbus dans leur cave à utiliser leur ordinateur comme ça. Mais avant d'être un vieux barbu, il faut planter la graine du libre, et cela se fait souvent, donc avant d'avoir les cheveux grisonnants et une barbe d'environ 27 mètres, ça se fait à l'université. Et donc en fait... excusez-moi, je me perds dans mes notes.
Pas de problème, c'était une très belle intro déjà, donc tu nous as vraiment mis l'eau à la bouche pour cet échange.
C'est en effet, le libre est né à l'université, avec notamment le projet GNU. Cette philosophie du partage est d'ailleurs quelque chose qu'on ne va pas forcément retrouver en entreprise, où c'est plutôt même la concurrence qui va primer, on va essayer de cacher notre code. Là où l'université, on partage notre savoir et nos compétences. D'ailleurs, si on regarde les plus gros acteurs du monde libre, donc comme j'ai dit GNU, ils viennent souvent des bancs d'école. Donc GNU qui a été créé par Stallman, initié par Stallman dans les années 80, qui est donc enseignant au MIT. On peut aussi penser à Linux, qui a été développé par un jeune étudiant finlandais, qui avait fait un projet sans prétention et qui est devenu le monstre que l'on connaît aujourd'hui. Et si on veut être un peu chauvin, on peut citer Framasoft, qui a été créé par des professeurs de mathématiques et de français, ou encore l'association qui anime cette émission, l'April, qui a été créée en 96 à Paris 8 par des étudiants en informatique. On peut aussi parler des chatons, des pléthores de chatons faits par des étudiants. Donc un chaton, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est des fournisseurs de services comme du cloud, de l'édition de documents en ligne. Et donc je peux citer la Contrevoix, qui a été créée par des étudiants de 42, CAS, par des enseignants de l'IUT de Vannes, ou encore Xarius, qui a été créé par plusieurs étudiants de différentes écoles. Bref, le milieu étudiant est intimement lié au libre, et en informatique, dans ses études, qui n'a jamais effleuré cette notion? Cette notion d'ailleurs qui peut devenir une passion dévorante, comme cet étudiant polonais qui a réussi à avoir son diplôme en 2021 sans toucher à un seul logiciel propriétaire, comme Teams. Donc en pleine pandémie, il a bien réussi son coup. D'autres fois, on veut juste partager ce qu'on a appris sous licence libre pour que tout le monde puisse avoir ses connaissances, un peu comme a fait Charlotte, qui est avec moi donc, pour cette émission. Donc, bonjour Charlotte.
Bonjour Rémi.
Étienne t'a présenté rapidement en début d'émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas?
Je suis étudiant en TLX, c'est à peu près tout ce que je fais. Présidente d'asso maintenant, mais c'est tout.
Très bien. Bon, du coup, j'ai commencé par poser quelques petites questions de base, comme par exemple, comment tu as connu le logiciel libre en quelque sorte? Comment cette graine a été plantée au début?
Alors moi, elle a été plantée beaucoup plus tôt que l'université. C'est mon père qui l'a planté, qui a planté la graine du libre depuis que je suis toute petite. En effet, j'avais un ordinateur avant même de pouvoir marcher. Donc, il était programmé pour que quand j'appuie sur une touche du clavier, ça fasse un son. J'avais littéralement un clavier. Mais donc j'ai été tous mes ordinateurs à cette époque-là ont tourné sur Ubuntu, sur d'autres distributions Linux. Et donc c'est mon père qui m'a donné goût au logiciel libre au fil du temps, en m'apprenant comment développer au début, même si j'ai commencé à apprendre d'autres langages que lui, en m'apprenant qu'est-ce que c'est le développement, l'administration de système. Donc c'est ce qu'il a, ce qu'il faisait aux impôts avant, il était administrateur système. Donc c'est lui qui m'a appris comment on utilise un Linux, comment on administre un Linux, comment on administre les différentes applications, genre MySQL, genre PHP ou Apache, enfin tous ces logiciels. Donc oui, c'est mon père qui a planté la graine de livre en moi. Et depuis, je trouve qu'elle a bien grandi.
D'accord, très bien. Et du coup, tu as continué aussi toi-même à l'alimenter, cette graine, et jusqu'à en fait continuer même lors de ses études à faire du logiciel libre. Qu'est-ce qui te... Pourquoi tu aimes ça? Pourquoi tu veux continuer à l'utiliser, à le promouvoir?
Alors, le logiciel libre, pour moi, c'est important, c'est rentré dans le cœur de mes valeurs. Donc, pour moi, en fait, je suis très logiciel libre parce que je crois en la liberté d'information, que tout le monde doit avoir... tout le monde a un droit fondamental en information, pour moi, c'est important. Donc, je partage tous mes logiciels et tout ce que je fais en licence GPL V3. Donc tout le code que je fais est en licence libre. Donc par la GNU GPL, enfin la GNU Public License.
On va en reparler juste après de cette licence.
Je fais pas beaucoup d'art, donc je n'utilise pas beaucoup de Creative Commons, comme ce qu'on a été discuté plus tôt. Donc moi je n'utilise pas beaucoup de Creative Commons parce que je fais pas beaucoup d'art, mais je fais beaucoup de code et tous mes codes sont en GPL parce que j'aime les informations et pour moi elles doivent être publiques. Et donc c'est pour ça que tout est open source.
Très bien. Et du coup, on va revenir rapidement sur cette notion de GPL. Donc une licence, en fait, c'est rapidement un contrat qui va définir comment utiliser le logiciel. Et donc la GPL, en fait, va demander à tous les utilisateurs du logiciel de redistribuer ce programme avec cette licence-là. Et certaines licences ne donnent pas ça. Par exemple, la licence BSD qui dit juste de pouvoir utiliser le logiciel, entre autres. Et si jamais on souhaite fermer le code derrière, c'est possible. Je préfère préciser un petit peu, voilà, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant ou initiés dans ce milieu-là. Et donc, Est-ce que tu as un projet en particulier à présenter, vraiment un projet qui te tient à cœur, que tu as mis donc sous licence libre et que tu as envie de partager comme ça?
Alors, bien sûr, j'ai mon projet qui me tient le plus à cœur, c'est Baguette Sharp. Alors, qu'est-ce que c'est Baguette Sharp? C'est un langage de programmation ésotérique. Alors, ça fait très peur. En fait, c'est juste un langage de programmation qui est fait exprès pour être horrible. Donc, il est développé. Et en fait, c'est un langage qui utilise que des pâtisseries françaises et un peu de pâtisseries alsaciennes / germaniques. Mais donc en fait, tout ce code avec des pâtisseries, genre print, c'est croissant pour afficher quelque chose. Donc c'est le projet qui me tient le plus à cœur. Il est en GPL V3 disponible sur GitHub et bientôt sur ma GitForge quand j'aurai un serveur pour l'héberger. Donc c'est mon projet qui tient le plus à cœur. C'est un projet qui m'a ouvert beaucoup de portes. Il m'a ouvert les portes d'un stage l'année dernière à l'INRIA de Rennes. Il m'a ouvert les portes de passage en scène, là où j'ai fait une présentation de 30 minutes dessus. Et il m'a ouvert les portes de la journée du livre éducatif par Alexis Kaufmann, où j'ai fait une petite présentation flash dessus.
Très bien, alors pour revenir rapidement, donc l'INRIA, c'est un laboratoire d'informatique basé donc en Bretagne.
Dans l'Université nationale.
Oh, je confonds toujours, c'est IRISA.
IRISA qui est Bretagne.
C'est ça, et c'est lequel, le national? C'est ça. Les noms sont assez communs, donc je confonds toujours. Et donc passage en scène, c'est des 3 jours de conférence qui a lieu à Choisy-le-Roi tous les ans en juillet. Et Alexis Kaufmann est un des cofondateurs de Framasoft, qui travaille maintenant au ministère de l'Éducation et qui essaye de pousser un petit peu cette philosophie du libre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une super conférence de sa part à Passage en scène, où il explique un peu les actions qu'ils entreprennent au sein du ministère pour pouvoir mettre en avant le libre.
Je peux me permettre même, il est même intervenu dans une émission de septembre dernier dans Libre à vous. Donc une autre occasion aussi de l'entendre. Effectivement, c'est quelqu'un de très intéressant à écouter, oui.
Merci Étienne pour cette petite précision, toujours bonne à prendre. Et du coup, donc parmi toutes ces portes qui t'ont été ouvertes, est-ce qu'il y en a une qui t'a permis d'avoir des échanges en plus, comme par exemple ton stage au sein du laboratoire de recherche? Est-ce que tu as pu voir des personnes qui connaissent un petit peu, on va dire, ce milieu du développement un peu plus poussé, et tu as pu avoir des échanges intéressants
Alors effectivement, c'est quand je suis entré au laboratoire, donc à l'équipe PACAP à Rennes. Si ils m'écouteront un jour, c'est dans mon cœur. Voilà. Donc j'ai connu plein de gens qui m'ont appris beaucoup de logiciels libres. Genre par exemple, Gnuplot, pour faire des graphiques, au lieu d'utiliser Matplotlib sur Python, ou d'utiliser surtout pas un truc sur un tableur. Non, c'est Gnuplot qu'on utilise, et donc c'est un logiciel qui se fait par ligne de commande pour afficher des graphiques. Donc, et qui est bien sûr sous licence GPL, puisque c'est un logiciel de GNU. Mais donc j'ai découvert ça, j'ai découvert plein d'outils qu'on a fait à l'INRIA, mais qui sont ouverts pour tout le monde. Il y a des outils. Et par exemple, j'ai appris que c'est à l'INRIA de Rennes que André Cesnec a inventé la prédiction de branchement sur les processeurs. Donc j'ai appris beaucoup de choses quand j'étais à l'INRIA, beaucoup de choses en libre. J'ai fait du code qui n'est pas encore libre, puisque c'est du code qui attend d'être publié. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de logiciels libres pour pouvoir coder. Par exemple, mon rapport est fait en LaTeX, qui est un logiciel qui est construit sur une technologie qui a 40 ans pour faire des documents, et qui est sous licence libre. Et j'ai utilisé Gnuplot, qui est sous licence libre. Là, j'ai utilisé aussi LibreOffice, qui est sous licence libre. Donc j'ai utilisé beaucoup de logiciels libres.
Très bien. Et du coup, on va sortir un petit peu de ce cadre de recherche. Et donc, est-ce que ces découvertes de logiciels libres, ou est-ce qu'il y en a encore d'autres que tu utilises au sein de tes études, comme par exemple des éditeurs de code libres ou autre chose?
Alors, déjà, on le dira jamais assez, mais GIMP, ça m'a sauvé la vie. Merci. GIMP ou GIMP, je ne sais pas comment il faut dire. Hein.
Je crois que c'est aussi un petit débat dans la communauté.
Personne ne sait. Hein.
Donc ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Hein, pour ça édite même les PDF au cas où. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé. Je commence à me mettre à utiliser Emacs. C'est un peu long. Je sors de VS Codeium pour utiliser Emacs. Petit à petit.
Emacs et VS Codeium, pour nos éditeurs qui ne sont pas développeurs, c'est des outils pour pouvoir écrire du code. Voilà.
Et donc Emacs, c'est de GNU, donc sous licence GPL et libre. Et VS Codeium, c'est fait par Microsoft.
Oui, mais aussi sous licence, il faut aussi le préciser que les grands GAFAM, parfois, ont une petite bonté et font du logiciel libre.
C'est la version déprivatisée de VS Code, en fait. Donc, j'utilise quoi comme logiciel libre aussi? LibreOffice, j'utilise tous les jours pour prendre des notes. Typeist, de plus en plus, au lieu de LaTeX. Donc, c'est un logiciel un peu comme du Markdown, pour prendre des notes. C'est rapide. Pour faire plein de choses, c'est très puissant. C'est un peu comme du Python au niveau programmation. C'est fait en Rust, qui est un langage de programmation aussi libre. Et Typeist est un logiciel libre.
Ouais, donc beaucoup de logiciels libres qui font vraiment un écosystème qui permettent d'étudier librement, un peu comme l'étudiant poney que j'ai pu citer un peu plus tôt. Moi, pour ma part, je vais aussi raconter un petit peu rapidement ce que j'ai pu faire lors de mes études pour le libre. J'ai en fait tout de suite utilisé, comme a dit Charlotte, VS Codeium et VS Code, qui sont donc des éditeurs de code libre. J'ai aussi utilisé Linux, Firefox, tous ces outils-là. C'est des outils que vous utilisez sans le savoir, qui sont libres, comme j'ai pu citer Firefox, LibreOffice, GIMP, tant d'autres qui sont cachés à vos yeux.
GeoGebra.
GeoGebra aussi pour les collégiens peut-être qui nous écoutent, qui est un logiciel donc pour faire de la géométrie, entre autres.
Et des maths.
Et des maths, et qui est aussi sous licence libre et qui est français, si je ne dis pas de bêtises.
Alors je précise, on vous cite énormément de logiciels libres, de ressources libres, je les note au fur et à mesure, et on mettra à jour rapidement les références sur la page de l'émission pour les personnes qui souhaitent effectivement aller y jeter un œil.
Ouais, comme ça tout le monde peut utiliser le logiciel libre.
C'est ça, c'est toujours intéressant de rajouter un nouveau logiciel qui peut parfois être un peu plus performant que le précédent dans son flux de travail.
Et puis il ne faut pas oublier le côté sécurité des logiciels libres.
Oui, parce que les logiciels propriétaires qui vont fermer leur code vont mettre en avant la sécurité par l'obscurité. Ça veut dire que si personne ne peut voir le code, ça ne peut pas être cassé. Donc on a eu plusieurs démonstrations que si, en effet, il y a des petites failles à droite à gauche. Et là où le logiciel libre, comme tout le monde peut lire le code, tout le monde peut trouver des failles, donc tout le monde peut les remonter beaucoup plus rapidement.
C'est comme ça que plusieurs failles ont été sécurisées dans Linux très rapidement.
Donc je vais reprendre un peu mon fil de questions parce qu'on s'est un peu on a un peu décalé. Donc pour revenir sur ton projet que tu as mis sous licence GPL, pourquoi utiliser donc cette licence précisément? Est-ce que c'est parce que comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, ça permet en fait si jamais quelqu'un veut modifier le code, il est obligé de garder cette licence pour garder le savoir, ou c'est pour une autre raison particulière?
Effectivement, c'est bien pour le fait que ça reste dans le libre. Je ne voudrais pas, comme mes autres logiciels qui sont sous licence MIT, qui est une autre licence qui, elle, permet de fermer le code plus tard. La GPL est une licence qui permet que ça reste dans le domaine ouvert. Donc même s'il y a des modifications sur mon logiciel que j'attends, que si quelqu'un veut modifier mon logiciel pour faire d'autres choses à la place des pâtisseries, qu'il le fasse. Je suis j'attends juste que ça arrive. Mais donc si quelqu'un veut modifier mon logiciel, ça doit rester dans le domaine public. Et donc c'est ce côté copyleft, à l'opposé de copyright, qui m'intéressait beaucoup dans la GPL. C'est pour ça que j'ai finalement passé tous mes projets en GPL.
D'accord, très bien. Donc là, je vais aussi reprendre donc le copyleft, c'est juste pour dire qu'on est obligé de redistribuer soi-même licence. Le MIT n'a pas de copyleft, c'est pour ça qu'on peut changer la licence en cours de route. Donc on a vu un petit peu donc le libre au milieu des études avec les logiciels qu'on utilise pour travailler, les logiciels qu'on utilise donc pour communiquer aussi via Matrix par exemple.
Mattermost.
Oui, ou Mattermost qui est aussi utilisé au sein de l'IRISA et de l'INRIA si je ne dis pas de bêtises.
C'est le cas.
Donc on peut maintenant sortir un petit peu de ce cadre scolaire et voir un petit peu le libre dans le monde du travail, parce qu'en tant qu'étudiant, on finit toujours par sortir de l'école pour aller travailler. Donc toi, comment tu vois le libre dans ton métier après les études?
Alors, c'est une très bonne question, parce que moi, après mes études, même pendant, parce que le concours est dans un mois, je compte passer le concours d'inspectrice des finances publiques. Donc, ils appellent ça en qualité de programmeur système d'exploitation, PSE, mais c'est pour dire que c'est admin système. Donc je vais administrer des systèmes en Linux. Et donc, ce sera très important dans mon travail parce que tous les logiciels qu'on utilise sont des logiciels libres à la DGFiP et à l'État en plus général. C'est même très important, et c'est pas une question. On utilise des logiciels libres obligatoirement. Il faut une dérogation spéciale pour utiliser genre Microsoft Office. Sinon, tout le monde utilise LibreOffice. Et tous les serveurs sont sous Linux. On peut citer, par exemple, le cloud interministériel qui a fait la DGFiP, qui permet de garder les données en France. Toutes les données, au moins, de la DGFiP sont stockées en France par la DGFiP. C'est elle qui a la souveraineté des données et en licence libre parce que ce cloud utilise des logiciels libres pour se construire. Donc, c'est au moins... En tout cas, moi, la DGFiP, là où j'ai travaillé et là où je vais travailler plus tard, le logiciel libre a une place très importante, puisque tout est logiciel libre obligatoirement, sauf dérogation spéciale.
On peut peut-être aussi regretter le fait que ce soit les impôts qui utilisent beaucoup le logiciel libre et non pas le ministère de l'Éducation, avec notamment les licences Oracle ou encore Office.
Oui, malheureusement, c'est plus difficile de faire bouger l'éducation que les impôts là-dessus, bizarrement. Mais j'espère bien que l'éducation va passer du côté libre de la force un jour.
Mais on peut citer, parce que tu parlais d'Alexis Kaufmann, qui est donc au ministère de l'Éducation nationale, plus spécifiquement à la direction du numérique. Et c'est la difficulté aussi de ces ministères sont tellement grands qu'en fait, il y a des super initiatives libristes qui se développent au sein du ministère de l'Éducation nationale, mais on voit que, en fait, de manière systémique, c'est là où réside le problème. Et d'ailleurs, même le ministère en fait, des Finances n'est pas exempt, malheureusement, de défauts. Et bien, on voit qu'heureusement qu'il y a des initiatives, il y a des libristes au sein de ces administrations qui font vivre le libre et qui, projet après projet, aussi permettent son développement. Mais c'est sûr qu'il y a du chemin à faire côté de l'éducation nationale.
En effet, la route est longue, mais la voie est libre.
J'ai deux choses à dire sur ça. Alors, un, en fait, aux impôts, on a en tout 100 000 agents. À l'éducation nationale plus supérieure, c'est 1 million. Donc c'est pas la même masse à bouger. Et oui, on essaye de bouger aux impôts. On essaye de bouger aux libristes. Mais c'est pour ça que la journée du libre éducatif a été instaurée par Alexis Kaufmann qui le fait. C'est pour présenter tous ces projets faits par des profs ou des étudiants. Moi j'ai fait ces projets étudiants, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est des projets par des profs libristes. Et du coup, c'est un moment pour montrer ces projets libres. Ou par exemple, montrer qu'on a participé à OpenStreetMap. Montrer qu'on a créé, je me rappelle, d'une application qui permettait de faire des oraux, de s'entraîner sur des oraux. En français, par exemple, pour les premières qui passent leur examen. Le bac.
Si jamais tu retrouves le nom, ça peut peut-être intéresser certains auditeurs.
Si je retrouve le nom... J'essaie de retrouver le nom et je l'enverrai par mail au pire.
Voilà, on fait comme ça, oui. On rajoutera la liste des nombreuses ressources que vous avez déjà partagées.
Ouais, mais donc ouais, ce logiciel, il était très intéressant. C'est ce qui m'a marqué, surtout pendant cette journée.
Comme quoi, encore une fois, le LIB, c'est vraiment le partage de connaissances afin d'apprendre et de mieux comprendre que ce soit le monde ou les études. Donc que ce soit donc avec cette journée où on peut présenter les différents projets. Et encore une fois, c'est vraiment donc le corps enseignant ou encore le corps étudiant qui va travailler là-dessus.
Il y a énormément de... On ne s'en rend pas compte, mais surtout à la fac, en fait, il y a énormément d'initiatives étudiantes spontanées sur créer un nouveau logiciel libre. C'est très commun. Dans ma promo, il y a aussi deux autres projets. Alors, c'est des petits projets, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais par exemple, j'ai une amie qui a développé, pour s'entraîner, un solveur d'équations logiques. Et il est entièrement libre, disponible sur son Git, qui est self-host aussi. Donc le libre, c'est pas que certaines personnes dans les facs. Ça touche vraiment tout le monde qui font leurs projets et qui les mettent à disponibilité de tout le monde. Par exemple, pour s'entraîner à utiliser du Haskell, ils font ça. Ou pour s'entraîner à utiliser un autre langage. Haskell, c'est un langage de programmation fonctionnelle, désolé. Mais pour s'entraîner à utiliser un langage, ils font un projet, et après ils le mettent en libre. Donc il y a énormément de projets libres comme ça disponibles faits par les étudiants. Et par le corps et en enseignant aussi, faut pas les oublier.
Oui, donc comme j'ai pu citer aussi un peu plus tôt, c'est comme Linus, qui a donc fait pour s'entraîner au système d'exploitation Linux, qui l'a mis en ligne comme ça, sans vraiment trop savoir, en disant juste c'est un petit projet, un petit hobby, qui est au final devenu un des OS les plus utilisés sur les serveurs. Donc quand vous vous connectez à votre site internet, peut-être que vous êtes sur un Linux.
C'est un des noyaux les plus utilisés.
On va éviter de faire des trucs trop, trop pointus dans cette émission.
Je vais préciser ce qu'est un noyau. Parce que nous, souvent, on dit que nous, Linux, pour rappeler qu'effectivement, il y a ce noyau et tout le système aussi qui se construit autour. C'est intéressant peut-être aussi de savoir ce qu'est un noyau informatique, puisqu'on parle finalement de graines de Libris. Bon, là, c'est une forme de graine aussi à l'intérieur de ce système. C'est quoi le noyau ?
Le système, c'est toi, hein ? C'est toi qui connais ?
Ah bah oui. Donc le noyau, c'est en fait donc le tout premier programme. Donc je vais simplifier, donc les puristes, ne me tapez pas s'il vous plaît. Donc le noyau, c'est le tout premier programme qui va se lancer au démarrage de l'ordinateur et qui va permettre en fait de communiquer votre matériel, donc votre souris, avec votre écran. Donc quand vous allez bouger la souris, donc le curseur, il va passer par le noyau qui va donc interpréter les signaux et qui va les renvoyer pour l'écran. Et donc la surcouche, donc ça c'est Linux, et la surcouche GNU, c'est un ensemble d'outils développés par, encore une fois, le projet GNU, toujours eux, qui en fait contient plein d'outils qui permettent d'utiliser le noyau Linux plus facilement.
Et donc par exemple, il existe des OS qui sont Linux, mais sans la surcouche GNU. Par exemple, Android tourne sur Linux comme noyau. C'est une vieille version de Linux, je crois.
J'ai un petit doute là-dessus. Je sais par exemple que Alpine, par contre, utilise un autre système que GNU, mais majoritairement, c'est la surcouche GNU qui est encore utilisée actuellement.
Elle est utilisée sur quasiment tous les OS qu'on appelle Linux. Quand on fait un gros amalgame Linux, la majorité sont des noyaux Linux avec une surcouche GNU.
Voilà. Et donc aussi les noyaux, c'est aussi quelque chose qu'on va étudier à l'université. Et je pense notamment à un projet que j'ai pu avoir lors de mon master, où on a dû manipuler un noyau, là aussi libre, donc Nachos, qui est sous BSD ou Apache, je ne sais plus. Encore des licences, mais ça c'est des précisions pour ceux qui aiment bien ça.
Il y en a beaucoup.
Et voilà, il y a énormément de licences. Et donc ce noyau Nachos, on a pu le modifier grâce à ces licences libres, on a pu étudier son comportement et donc le porter sur une nouvelle base de code, beaucoup plus récente, là aussi sous licence libre. Et donc voilà, encore une fois, le libre permet en fait d'apprendre et de partager des connaissances comme ça.
Tu peux dire le nom, c'est drôle.
Oui, alors on a essayé de rester dans le thème de la cuisine mexicaine avec notamment burritos.
Et je vais me permettre une question peut-être avant de faire une pause musicale, si ça te va, Rémi. Ce que tu as dit, voilà, tu étais aussi étudiant à l'ISTIC, c'est le cas de Charlotte qui est encore en ce moment. Charlotte, tu disais que voilà, tu avais des camarades de promo qui avaient des projets libres. Toi, tu disais que tu avais étudié sur une OS libre. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a une place importante donnée au libre dans cette faculté? peut-être ce sera un peu être intéressant. Et est-ce que vous pensez que c'est une exception par rapport peut-être à d'autres facultés informatiques, ou ça vous semble peut-être être par rapport, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger avec des étudiants et des étudiantes de d'autres facultés en France. Voilà, à quel point c'est une exception ou plutôt une norme? Quel est votre ressenti là-dessus?
Tu veux commencer, Charlotte, ou...
Je vais commencer, ouais. Alors, avant d'être en licence, j'ai fait une prépa à Bordeaux. Donc, j'étais techniquement inscrite à l'université de Bordeaux. Et il y avait moins de projets, de ce que j'ai vu sur le Geeks de la faculté d'informatique de Bordeaux. J'ai oublié le nom. Je crois que c'est juste UFR d'informatique. Il y avait beaucoup moins de projets étudiants. Par contre, j'ai pas beaucoup parlé à des étudiants, et en prépa, même avec l'option informatique, on faisait que 2 heures de vraie info. Du coup, j'étais la seule avec des projets assez gros, quoi.
Donc moi, je vais parler un peu plus de la faculté, parce que j'ai fait ma licence et mon master là-bas, et j'ai aussi fait un DUT avant, mais je pourrais peut-être revenir sur l'aspect libre de ce DUT un peu plus tard. Et donc, à l'ISTIC, c'est pas vraiment poussé, mais ce n'est pas non plus, si on peut utiliser du libre, on va utiliser du libre. Mais il y a toujours des solutions un peu propriétaires, comme Teams, même si j'aurais préféré Mastermotte, qui est utilisé au laboratoire dont est rattaché l'ISTIC, ce qui est un peu paradoxal parfois. Et on utilise aussi Moodle, donc une plateforme pour gérer les devoirs, un peu comme Pronote, qui est libre aussi. Et souvent, nos enseignants ne vont pas forcément promouvoir ce logiciel libre, par contre. Là où, à mon unité de Vannes, on avait un enseignant qui a cofondé CAS, donc le chaton que j'ai cité un peu plus tôt. Donc, Monsieur Mercioche, s'il nous écoute, voilà, je vous salue. Et donc, lui qui nous expliquait ce que c'était le libre, qui essayait de nous donner cette petite graine. Donc, elle n'a pas forcément germé chez tout le monde, mais en tout cas, chez moi, elle a bien grandi. Et je pense qu'on fait partie quand même d'une université qui est assez ouverte là-dessus, qui, si on peut utiliser du libre, ça ne leur pose pas de soucis. Parce que je connais certaines, notamment écoles d'ingénieurs, où c'est beaucoup plus fermé, où c'est utilisé.
Les écoles d'ingénieurs, pour être en prépa, ouais, je connais beaucoup de gens en école d'ingénieurs actuellement, et le libre, c'est vraiment pas un truc qu'ils connaissent. Ouais. Ils sont tous sur Windows, ils sont tous à utiliser Microsoft Office, enfin voilà quoi.
Voilà, bien sûr, ça varie sur les écoles d'ingénieurs, on ne vise pas tout le monde, mais...
Il y a des bonnes écoles d'ingénieurs.
Voilà, il y a les bonnes et les mauvaises écoles d'ingénieurs.
On laissera chacun méditer sur la différence entre les deux. Je vous propose de faire une pause musicale avant de continuer cet échange. Donc je vous propose d'écouter Night par Cloudkicker. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Night par Cloudkicker, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous avons plaisir aujourd'hui de vous proposer une émission Graines de Libristes, où on laisse la parole à des jeunes personnes qui s'engagent pour le logiciel libre et les libertés informatiques. Je vais donc rendre de ce pas la parole à Rémi Robillard, développeur fraîchement diplômé de l'ISTIC, faculté d'informatique de Rennes, qui échange avec Charlotte Thomas, étudiante en licence 3 à l'ISTIC. N'hésitez pas à participer à la conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat.
Merci Étienne. On est de retour, on va continuer donc ce petit échange avec Charlotte. Et donc Charlotte, en début d'émission, tu nous avais dit que tu avais beaucoup de projets que tu mets sous licence GPL. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ces projets ou juste d'autres projets libres auxquels tu participes, comme OpenStreetMap? Donc c'est une alternative libre à Google Maps où tout le monde peut venir contribuer. Donc si la route devant chez vous n'est pas dans Google Maps, vous pouvez la rajouter dans OpenStreetMap si elle n'y est pas déjà. Donc, est-ce que Charlotte, tu as d'autres projets libres ou tu contribues à d'autres projets sur ton temps libre?
Alors, je vais vous parler de quelques projets, un à la fin, donc qui me tient particulièrement à cœur. En ce moment, en fait, je me suis mis à Typeist. Donc, si vous avez pas suivi la première partie, c'est un logiciel qui voue à remplacer la tech. Bon, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Voilà. C'est un logiciel pour faire des PDF, en gros, pour écrire des PDF. Et donc, en fait, j'ai fait beaucoup de templates, qui sont des trucs à pré-remplir. C'est des documents qui sont pré-remplis pour que ce soit plus simple de faire des documents dans un truc. Par exemple, j'ai fait une template qui permet d'écrire des statuts d'association, parce que pour des associations, c'est un peu spécial de faire de... Il faut pas écrire grand 1, il faut écrire titre 1, et il faut pas écrire petit 1, petit 2, petit 3, il faut écrire article 1, article 2, article 3. Donc j'ai fait un template pour que ça puisse être fait. Donc c'est sur ça, et donc j'ai un peu contribué à la communauté Typeist en faisant ce truc associatif. Bon, c'est très français, hein, c'est une template pour les associations françaises.
Il faut bien un peu de... Pour que tout le monde puisse utiliser le logiciel libre, que ce soit spécifiquement les Français, spécifiquement les Allemands, et ça qui est bien aussi avec, c'est que tout le monde peut venir mettre un peu sa patte pour avoir un logiciel qui est très, qui permet de remplir beaucoup de cas d'utilisation, où chacun vient compléter le projet, le modifier, le mettre à jour.
Donc, par exemple, moi j'ai fait la version pour les Français, et peut-être que ça incitera des personnes à faire une template pour les associations en Alsace-Moselle, puisque c'est un peu différent, c'est pas la même loi. En 1901, l'Alsace-Moselle n'était pas en France. C'est la loi de 1908, si je me souviens bien. Ou par exemple, pour une association en Angleterre, ou en... J'allais dire en Bretagne, mais... ou en Allemagne, par exemple.
Et donc, est-ce que tu as... C'est le principal projet auquel tu as pu contribuer récemment ou tu as fait d'autres choses, d'autres projets encore?
Alors, c'est le principal projet que j'ai fait récemment, puisque en ce moment, je suis plus centré sur mes études et sur mon association étudiante. Mais le plus gros projet que j'ai participé dans ma vie, c'est Omega.
Alors, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu l'histoire d'Omega en expliquant d'où ça vient, etc.
On va parler d'Omega. Alors, Omega, c'est parti de... Alors, la calculatrice s'appelait Numworks, une calculatrice française, construite en Chine, mais française, designée en France, qui avait dit qu'ils allaient faire un logiciel libre. Bon, il se trouve que leur code était en CC by NCND. Donc, je vais pas tout vous détailler, mais en gros, ça veut dire qu'on peut pas récupérer le code. Au bout d'un moment, ils avaient changé en SA, qui veut dire share alike, qui veut dire qu'on doit partager avec la même licence. Donc c'était un peu plus ouvert. Donc on a pu faire avec des amis une modification du firmware de la calculatrice. Et comme il s'appelait Epsilon, on a décidé de l'appeler Omega. Et dans Omega, il y a des gens qui faisaient des choses magnifiques. des gens qui jouaient avec le avec juste avec du code très bas level pour très bas niveau, donc très proche de la, du processeur, pour faire des CS, donc c'est des logiciels qui savent faire des maths pour tout seul. En gros, c'est des logiciels pour faire des maths difficiles, dans des limites et tout. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ajouté les unités et les constantes. J'étais la constante. J'ai ajouté 230 constantes, qui faisait que c'était la calculatrice avec le plus de constantes de l'histoire des calculatrices graphiques lycéennes. Donc c'est une entreprise que j'ai bien aimée, j'ai eu beaucoup de fun avec tous les développeurs de Omega, je leur parle toujours, très actif sur leur serveur toujours. Mais malheureusement, depuis la version 16 d'Epsilon, NumWorks a fait un retour et a mis complètement la licence en copyright. Donc on ne peut plus la modifier et partager des données. On ne peut plus modifier et partager des nouvelles versions parce que tout est en logiciel propriétaire maintenant. Ils ont fait ce déplacement à cause du mode examen, parce que c'était théoriquement possible de modifier le code pour bypass, donc c'est-à-dire aller autour, comment on dit en français déjà ?
Contourner
le mode examen. Donc comme c'était théoriquement possible, ils ont fermé le code pour que les autorités, alors c'était pas français, c'est que les autorités portugaises soient gentilles. Donc voilà, c'était mon projet qui me tenait le plus à cœur. Et malheureusement, maintenant c'est fermé, on peut plus participer. Donc c'est vraiment dommage.
Donc voilà,
et c'est ça du jour au lendemain, sans nous prévenir. Même Texas Instruments prévenait les gens.
Donc voilà, ça montre bien que le CLI permet donc de faire de magnifiques choses, comme la calculatrice avec le plus de constantes, comme tu as pu nous le dire. Mais à côté, les entreprises peuvent toujours fermer le code et on a une calculatrice qui va être moins performante, entre guillemets. On n'aura sûrement pas à nouveau de contribution de ce style, vu que le code est fermé.
Mais en fait, c'est plus une question de fonctionnalité. Parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on apportait le système, donc ce que j'ai dit, c'est un logiciel pour faire des maths. Et en fait, les calculatrices qui savent faire ça, elles coûtent 150 euros. Et c'est parfaitement légal en France, avec le mode d'examen, d'avoir un CAS. Donc ça veut dire que les gens qui peuvent payer une calculatrice à 150 euros, elles ont droit à quelque chose de plus fort que quelqu'un qui paye une calculatrice à 80 euros. Donc en fait, Omega permettait d'égaliser les chances entre les personnes. Pour que les gens qui peuvent acheter une calculatrice à 80 euros, ce qui quand même est déjà un gros prix, on va pas se mentir, pour 3 ans d'études, c'est quand même assez gros comme prix. Et en fait, de leur permettre à eux d'avoir un CAS pour pouvoir être plus à égalité avec les gens qui peuvent acheter une HP Prime ou une TI Inspire CS ou etc. Donc c'était pour vraiment mettre à égalité les gens.
Et donc
c'est plus possible.
Est-ce que tu avais eu des retours de lycéens du coup qui ont pu utiliser cette fonctionnalité pour être sur le même pied égalité qu'une personne qui avait un plus gros portefeuille ou...
Alors on a eu plusieurs lycéens dans notre serveur qui ont fait des retours sur comment on pouvait. Alors le logiciel libre qu'on utilisait, c'est JIAC, qui est fait par le professeur Bernard Paris à l'Institut de Fourier à Grenoble. Donc c'est un logiciel libre français, JIAC. Donc c'est sous les GPL, JIAC, hein, c'est le moteur de calcul formel derrière. Il est libre, il est fait par un Français. Et on a eu des retours de gens qui étaient très intéressés, parce qu'en fait ça permet plus que calculer la réponse, ça permet de vérifier son résultat ou de s'amuser avec les maths. On pouvait s'amuser avec, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée partielle, ou comment on résout des équations différentielles. En fait, ça permettait de s'amuser avec les maths et donc d'ouvrir les maths à plus de gens. Parce qu'il faut rendre les maths, dans mon sens, plus ludiques qu'elles sont actuellement. Et donc, au lieu de devoir payer 150 euros une pièce de logiciel, puisque le matériel, il vaut plus rien, c'est le même que depuis 30 ans, quoi. Donc, on pouvait avoir cette même fonctionnalité sur des calculatrices bien moins chères, ce qui rendait la Numorx très compétitive. Et donc, on a eu beaucoup de gens qui étaient très très déçus par ce changement. Surtout, comme moi, des gens qui ont été vendus dès le départ sur le fait qu'ils voulaient faire une calculatrice ouverte. J'ai acheté les deux modèles de la Numorx parce que c'était une calculatrice ouverte et que je voulais supporter le modèle français. Donc la fermeture du logiciel, ça a été pris un peu comme une trahison de ce qu'ils ont dit au début. C'était pas dans leur... ils ont changé de ligne éditoriale, on va dire.
Oui, donc encore une fois, l'aspect compétitif qu'on retrouve dans les entreprises et l'aspect libre de partage de connaissances, ça se cristallise bien, dans ce genre de combat. On a une calculatrice, donc, comme tu as dit, qui était, je ne dirais pas chère, mais moins chère que la concurrence, avec plus de fonctionnalités, qui permettait à tout un chacun de découvrir un petit peu et de s'amuser avec les mathématiques. Et d'un coup, crac, on n'a plus rien, ce n'est plus possible pour pouvoir utiliser, conquérir d'autres marchés.
C'est ça, c'est pour pouvoir conquérir le marché de Portugal. Donc à la fin, le monde de la compétition a gagné par rapport sur cette bataille, par rapport au libre.
Donc espérons qu'on aura d'autres projets libres dans ce sens qui vont gagner cette fois les batailles.
Un autre projet de calculatrice libre qui a été fait par d'anciens calculatrices.
En tout cas, ça me paraît très intéressant comme illustration de rappeler que justement que le logiciel libre est une lutte. Voilà, on lutte pour la liberté informatique. Il y a des intérêts parfois contraires aux nôtres et de l'importance de lutter. Et nous, ça nous fait chaud au cœur aussi, du coup, quand des étudiants, des personnes plus jeunes, une relève, on va dire, de cette lutte, continuent à apporter leur graines, leur briques de l'édifice. Et comme tu l'as déjà dit, la voie à l'ombre, la route est libre. Donc, on reste optimiste et combatif.
Voilà, donc, si je peux me permettre. Le projet s'appelle Symbolibre et c'est un projet de l'ENS, donc École Normale Supérieure de Lyon, des étudiants en master informatique fondamentale. Donc ils développent un logiciel complet avec un CS complètement du départ, logiciel d'exploitation, avec le firmware qui est open source, avec le hardware qui est open source, donc le physique, tout est open source, tout peut être imprimé en 3D, tout peut être acheté, tout peut être construit. Qu'on peut construire dans notre propre calculatrice. Donc ça s'appelle Symbolibre, avec un Y.
Donc ça permet encore aussi de baisser les coûts de fabrication et on va dire, d'amener la connaissance dans des mains qui n'ont pas forcément pu le faire à cause de problèmes d'argent. Donc c'est aussi pour ça que, du moins en tant qu'étudiant, j'aime beaucoup Libre, c'est que ça amène la connaissance à n'importe qui. Vu que le libre ne demande pas vraiment d'argent. Alors, bien sûr, le libre n'est pas forcément gratuit. Je peux citer des exemples, notamment un jeu vidéo dont j'ai oublié le nom, où le code est libre, mais il faut pouvoir payer pour accéder au serveur. Sinon, tu montes le tien à côté, il n'y a pas de souci pour ça. Ça reste, le code est accessible.
Oui, on paye l'utilisation du serveur.
C'est ça.
Ce qui est compréhensible, vu qu'un serveur, ça coûte cher.
Exactement. Mais du coup, voilà, le libre, ça permet en fait de donner à tout le monde les mêmes armes. Et parfois, le libre est, comme tu as pu le montrer encore une fois que tu as calculé, je reprends cet exemple qui est très parlant. Il permet en fait d'avoir un gros point contre la concurrence et d'être en fait mieux que ce que pourraient proposer des solutions propriétaires comme Texas Instruments, entre autres.
Oui, donc c'est oui. C'était mon projet que j'ai le plus aimé. Je suis toujours content d'y avoir participé. Ça a été un très bon usage de mon temps. Et voilà. Même si j'ai fait que rajouter des constantes à la fin.
Alors,
j'ai ajouté constantes dans mes prénoms pour ça. Voilà. Petit fun fact.
Alors, qu'est-ce que je voulais... Je voulais aborder un autre passage aussi. C'était les contributions. Donc, comme tu l'as expliqué, donc, on peut contribuer à des projets, à des gros projets quand on est étudiant. Moi, je vais aussi raconter un petit peu mon histoire là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué au début. Je voulais contribuer au libre, mais je n'avais pas forcément les compétences, que ce soit donc en développement ou en mathématiques comme toi. J'étais un petit peu bloqué, pieds et poings liés. Je ne savais pas trop comment faire pour contribuer au libre. Et donc, en fait, c'est au fur et à mesure dans les études où on va commencer à comprendre comment marchent certaines choses quand on va utiliser certains outils libres et on se dit ah il manque ça et donc on va commencer à se renseigner, à voir comment c'est fait et ainsi rajouter sa petite brique et donc avoir des logiciels plus étoffés. Je pense notamment à des frameworks visuels, donc par exemple un framework visuel c'est ce qui va permettre de créer une interface de site web. Moi j'aime bien coder des petits sites web personnels pour m'amuser et donc mon framework ne pouvait pas afficher de calendrier. Du coup, qu'à cela ne tienne, j'ai regardé le code et j'ai rajouté un calendrier. Et c'est comme ça, on se dit, mais en fait, le libre, c'est pas si compliqué. Il faut juste avoir une seule petite fonctionnalité à rajouter et c'est possible. Et même en tant qu'utilisateur qui ne sait pas coder, il suffit de remonter ça aux développeurs qui, sur leur temps libre, vont rajouter cette fonctionnalité. Mais donc voilà, même si vous ne savez pas coder, il ne faut pas avoir peur. Si vous apprenez, vous allez finir par... par la rajouter, par voir comment ça marche. Si vous ne savez pas coder tout court parce que ce n'est pas votre métier, utilisez-les, cassez-les, renvoyez les bugs, renvoyez les problèmes, renvoyez les fonctionnalités qui manquent aux développeurs pour qu'ils puissent compléter tout ça. Je me rappelle de très bons sites qui expliquent justement je ne sais pas coder, comment contribuer à la culture libre. Donc la culture libre, c'est en prenant en compte aussi comme on a dit, les dessins, les musiques, tout ça, le OpenStreetMap aussi. Eh bien, en fait, il y a plein de façons de contribuer quand on aime cette culture. OSM, par exemple, vous pouvez utiliser Street Complete sur Android, une application qui permet de rajouter des points sur OpenStreetMap. Par exemple, vous avez, une route, vous pouvez dire bah, la route va avoir trois voies, et ce qui va permettre, avec le GPS, d'être un peu plus précis et de pouvoir mieux guider les utilisateurs.
Donc je reprends sur ça et c'est vrai que c'est très important de savoir qu'un logiciel libre, on peut y participer, comme tu l'as dit, rien qu'en l'utilisant. Et il ne faut pas oublier aussi que sur la très grande majorité de logiciels libres, les développeurs sont bénévoles. Ou alors ils ont quelques dons de la part des utilisateurs, mais c'est sur quelques exceptions rares, genre Linux pour Linux, par exemple, on peut citer, ils ne sont pas payés à plein temps pour faire ça. Donc ça prend un peu de temps et donc il faut s'autoriser à prendre un peu de temps pour qu'un bug soit corrigé, mais on sait que dans le logiciel libre, le bug sera corrigé, soit par le développeur lui-même, soit par quelqu'un qui aura décidé de le faire. Il décidera ce bug, je pense savoir comment le corriger. Du coup, je vais proposer au développeur ma version du code avec le code corrigé.
Oui, c'est une autre façon de contribuer, en effet. Donc voilà, c'est pour ouvrir les horizons à tous ceux qui ne savent pas coder, qui peuvent nous écouter. Il n'y a pas que le code dans le logiciel libre. On parle souvent de logiciel libre, mais il ne faut pas oublier la culture libre qui regroupe beaucoup plus de choses, comme Wikipédia aussi. Je ne l'ai pas cité, mais Wikipédia, c'est une ressource libre. Vous pouvez y contribuer. C'est sous une licence particulière, je ne sais plus laquelle.
C'est Wikimedia quelque chose.
Wikimedia Commons, je pense.
Oui. Je devrais te savoir, mais c'est vrai que l'information... Je me rajoute également, on peut contribuer à la documentation, et notamment guide utilisateur, parce qu'après tout, les utilisateurs et utilisatrices sont les plus experts de leur utilisation, et c'est aussi des manières de contribuer. Il y a de beaux exemples de contributions comme ça.
Il n'y a pas que le code. C'est rien qu'en utilisant un logiciel libre, vous pouvez remonter des bugs aux développeurs. Vous pouvez remonter des idées pour quelque chose de plus. Vous pouvez remonter je sais pas, tout un tas de choses.
Plein de choses.
Voilà, vous pouvez être un logiciel libre, ça ouvre à plein de choses. En l'utilisant, vous aidez, j'aimerais bien faire ça, si vous le dites au développeur, c'est que le développeur il dira, c'est intéressant. Et il le fera. Peut-être.
Et sinon, vous pouvez demander à votre ami développeur, sinon, de faire fonctionnalité pour vous et de proposer. Vous pouvez déléguer les tâches. Mais oui, je trouvais ça important de parler de ça parce que en tant qu'étudiant qui aime beaucoup, donc c'est ancien étudiant maintenant, qui aimait beaucoup cet aspect-là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré au début en disant je n'arrive pas à contribuer, alors qu'en fait on a énormément de possibilités pour faire ça.
Et il ne faut pas oublier aussi que le libre, c'est pas que des applications. Donc par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font des arts, de l'art. Par exemple, des images gratuites pour utiliser dans des logiciels libres, sous licence libre. Donc, en général, c'est une flavor donc, de la Creative Commons. C'est genre une dérivée de la Creative Commons.
Donc, c'est les fameux CC BY dont on parle lors des musiques. En fait, ça permet comme Étienne l'explique très bien, à chaque pause, ça permet de redistribuer sous certaines conditions. Donc, il faut citer l'artiste, un lien vers la musique, préciser s'il y a eu des modifications ou pas.
Et préciser voilà. Si on peut faire de l'argent avec ou pas.
Aussi. Mais ça, souvent, c'est un peu à part dans le libre. Mais je vais éviter de venir sur cette notion parce que c'est une notion qui va être un peu complexe à prendre en main. Donc,
On a le droit, le logiciel libre permet toute réutilisation, y compris commerciale. Je pense qu'on peut le résumer
oui,
peut-être.
C'était surtout pour. Parce que donc les licences CC ont une licence qui vont interdire la commercialisation. Oui. C'était plutôt pour ça. Ah. Et ce n'est pas exactement libre. Certains considèrent que c'est du livre, d'autres non.
On va dire l'école classique va considérer que c'est les CC BY et CC BY SA, donc ce SA qui parle du copyleft, du partage l'identique que vous avez un peu développé tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on va considérer, celle qui respecte les quatre libertés des logiciels libres, si on veut être rigoureux, pointilleux.
Mais donc oui, le logiciel libre, c'est aussi, le livre, c'est aussi l'art, c'est aussi la musique, c'est aussi tout un tas de choses. Il y a des BD qui sont dans le domaine public.
Je peux penser notamment à David, je ne m'en plus.
Revois,
c'est ça. Donc, qui est entre autres celui qui fait les dessins pour Framasoft et qui a notamment une bande dessinée qui s'appelle Pepper and Carrot, qui est sous licence libre. Je ne pourrais plus citer laquelle non plus.
Là, c'est laquelle de même au journal
éducatif. Oui, attends, on t'a pas. C'est un peu coupé. Tu peux...
Oui, c'est celle qui a été distribuée au journal éducatif, je crois.
Oui, il y a de fortes chances. Si c'est la nouvelle.
Elle est traduite depuis l'allemand, là.
Alors là, tu m'as perdu.
Ok, bref. Il y a plein de projets. Genre, par exemple, je sais qu'il y a un projet, on en a parlé au livre éducatif, où des étudiants ont traduit un livre qui était en allemand et l'ont traduit en français. Et c'était un livre qui était sous licence libre.
Ah, d'accord. Ok, c'est bon, je rattrape les wagons.
Ils l'ont republié en français sous licence libre.
C'est aussi, encore une fois, le libre partage la culture. Donc là, on passe de l'allemand au français. Je pense notamment à un livre récemment qui s'appelle, j'ai oublié son nom, donc qui raconte l'histoire d'une petite fille avec son grand-père qui découvre le logiciel libre et qui est aussi sous licence libre et qui a été traduit dans pléthore de langues. Encore une fois, c'est comme David et ses bandes dessinées qui sont traduites dans énormément de langues grâce à cette licence, puisque n'importe qui peut venir modifier les cases pour rajouter une autre langue. Et ce n'est pas illégal, justement. C'est grâce à cette licence, c'est complètement légal et ça permet d'ouvrir l'horizon des bandes dessinées et de faire participer à la communauté.
Donc, par exemple, moi, j'écris un roman. Bon, c'est un peu pas très bon, hein, parce que je ne suis pas très bonne romancière, mais c'est un roman, il est en CC by NCSA. Donc, Non-Commercial et Share Alike.
Oui. Pour ma part, moi j'ai écrit parfois certains petits articles de blog où je parle un peu technique et eux ils sont tous sous CC by SA. Donc voilà, non, même les étudiants peuvent faire du libre, même les étudiants produisent des choses, ce n'est pas réservé aux grands artistes, n'importe qui peut produire un petit quelque chose et le partager au monde facilement sous ses licences et donc permettre à n'importe qui de le reprendre, de le modifier, de le remixer, de voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, en quelque sorte, faire vivre l'œuvre aussi. Et c'est, je pense qu'il est le plus important avec le libre de manière générale, c'est de faire vivre les œuvres. Il ne faut pas avoir peur ça va nous dépasser, en quelque sorte. Il ne faut pas avoir peur que l'œuvre nous dépasse, qu'on perd le contrôle, parce que c'est le libre, c'est ça, c'est le partage à tout le monde.
Et donc, ouais, on en revient à ce que je disais au début, c'était ce que j'aimais, c'était je pense en la liberté d'information comme étant une liberté naturelle entre guillemets, mais une liberté fondatrice des humains. La liberté d'information.
Exactement. Bon, je vais conclure juste avant de rendre l'antenne à Étienne rapidement. Donc, comme vous avez pu voir, le libre, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, que vous soyez un étudiant, un collégien, une personne âgée. Tout le monde peut le faire, ça permet aussi d'ouvrir beaucoup d'opportunités et de faire de belles rencontres, comme a pu l'expliquer Charlotte au sein du laboratoire. Et peut-être que d'ici 30 ans, on fêtera l'anniversaire de votre projet qui était juste un petit hobby et qui ne sera pas aussi grand et professionnel que Linux. On verra bien.
Il vous reste même 2-3 minutes. Si peut-être Charlotte voulait en 2 minutes nous redire ce qui est pour elle l'essentiel qu'elle souhaiterait que les gens qui nous écoutent retiennent de ce que de tes propos.
Okay.
Bon, allez, il nous reste 2 minutes à peu près.
Okay. Bah alors, moi je vais dire que l'essentiel, c'est la liberté d'information comme étant une liberté fondamentale de l'homme. Donc pour moi, c'est ça. Enfin, l'homme et la femme, enfin, tout le monde, quoi. Et les enfants. Donc pour moi, c'est la liberté d'information. Pour moi, c'est la culture du libre qui est très importante. Partager, avoir... aussi, je ne l'ai pas dit, mais sur quand j'ai créé donc Baguette Chat, le truc qu'on a discuté tout à l'heure, j'ai eu des retours de développeurs dans plein de laboratoires dans le monde, genre à Tokyo et tout, qui m'en ont parlé.
Bah c'est super. Et bah du coup, je vais même me permettre, parce que je vois qu'il reste les 2 minutes. Une dernière question, est-ce qu'elle est vraiment dans l'air du temps, et de la voir finalement aussi de votre perspective d'ancien étudiant fraîchement diplômé et d'une personne qui étudie encore, dans votre rapport à l'informatique et à l'informatique libre, est-ce que vous avez un souci d'une informatique durable, d'une informatique qui s'inscrit voilà dans le contexte de dérèglement climatique actuel? Est-ce que ça occupe aussi finalement une part de réflexion dans votre rapport au logiciel libre? Alors c'est une question hyper vaste et je vous laisse très peu de temps pour répondre, mais voilà.
On va se dépêcher. alors moi je vais me dépêcher rapidement. Donc tout d'abord, moi j'utilise quasiment que du reconditionné, des PC de seconde main. Mes PC principaux, ils ont maintenant 12 ans et ils datent de 2011-2012. Il marche toujours très bien. Je suis une personne qui aime beaucoup ouvrir les onglets Firefox et j'ai facilement une bonne centaine ouverts et ça, aucun souci. Je peux utiliser, je peux regarder des vidéos, il n'y a aucun problème. Et je pense aussi que le logiciel libre permet de conserver. Donc, encore une fois, mon PC a 10 ans, c'est bien, ça permet de le conserver et d'éviter de le jeter alors que bah, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci à ça. Et je pense aussi aux applications où j'avais un téléphone avec très très peu de place dessus. Et il n'y avait que les logiciels libres qui me donnaient, qui étaient tout petits, qui faisaient 40 mégaoctets, là où les grosses applications en faisaient 500, et je n'avais pas la place de les installer. Et donc ça m'a permis de conserver mon téléphone pendant 5 ans, au lieu de le jeter après 2 ans, parce qu'il était inutilisable à cause de sa place.
Super.
Et moi, c'est dans l'air du temps, parce que j'en discute beaucoup avec mon asso aussi, parce qu'on a des réunions avec pour la réduction des déchets, la réduction de... Alors je fais pas beaucoup personnellement pour. Enfin, j'essaye de réduire mon empreinte carbone en allant en train, genre je prends pas trop l'avion quoi. J'ai pas l'argent. Mais je prends le train quand je peux. Je fais attention à mon électricité. Et dans le logiciel, je fais tourner des sites web par exemple qui sont très basse consommation. C'est pas des sites web très très lourds. C'est des sites web qui sont des simples pages. Donc ça prend moins de consommation de puissance de calcul et donc moins de consommation de serveur après quoi. Donc j'essaye de faire attention.
Ok, parce que ce sont de bons 6 exemples de gestes qu'on peut faire, enfin d'actions qu'on peut mener, mais aussi dans des cadres collectifs, hein, comme les associations. Je pense que c'est les actions dans les cadres collectifs qui sont sans doute les plus importantes. Mais enfin, en tout cas, voilà. Merci d'avoir répondu de manière aussi concise à une question hyper large qui aurait pu faire toute une émission. Et c'était un vrai plaisir de vous écouter tous les deux. Et je vous souhaite bon vent dans vos aventures libristes à venir. Et nous allons à présent faire une pause musicale. Nous allons écouter Nomade par Mela. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause commune 93.1.
Maybe I'm a nomad, never in one place, living off of memories, visits to outer space. It's a combination of reasons esoteric and personal to me. When ancient spells control a situation, I leave. It's the human in me. Never had a room more than a year at a time, leaving invisible statues behind, knowing where to buy the cheapest food and the fastest wine. No desire to be called continental till I could say I slept on every continent. Antarctica, you better know I'm coming for you. Too sweet. It's the gangster in me.
escape another town. 100 miles further to infinity. Today it's Massapequa, tomorrow New Orleans. Maybe just this once the world could settle down for me. But that would be too easy.
De retour sur Libre à vous sur Radio Cause Commune. Alors, je n'avais pas fait attention que mon micro était ouvert, donc vous avez peut-être un peu entendu Thierry me dit que non, en régie un tout petit peu. Bon, enfin, c'est pas grave. En tout cas, nous venons d'écouter Nomad par Mela, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est bye et ça.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Donc je suis toujours Étienne Gonu pour l'April et nous allons passer au dernier sujet. Et nous allons poursuivre avec la chronique des humeurs de Ji. Ji, auteur du blog BD Grisbouille, nous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. D'ailleurs, pendant la pause musicale, j'échangeais avec Rémi, qui connaît, je lui demandais s'il connaissait Jim, il me disait oui, et il avait déjà, par Mastodon, qui est donc un réseau social, fait remonter un petit problème sur le site, sur le blog BD Grisbouille, à Jim, qui a pu, corriger le problème. Voilà, une autre manière de contribuer aussi, de manière assez simple. Alors, Jim devait nous parler, la semaine prochaine de ses déboires avec France Connect, dont il a parlé justement aussi sur son blog. Et en attendant, pour nous remettre dans l'ambiance, je vous propose de réécouter la chronique qu'il nous avait proposée il y a presque un an, en novembre 2022, et qui reste toujours terriblement d'actualité, les fracturés du numérique. On l'écoute et on se retrouve juste après, toujours en direct sur Cause Commune, la voix des possibles. Nous allons commencer par une nouvelle humeur de Ji, que nous sommes ravis de retrouver avec nous en studio. Salut Ji.
Salut Étienne, et salut à toi public de Libre à vous. Aujourd'hui, je vais commencer par te raconter une anecdote palpitante. Il y a quelques jours, c'était la fin du mois d'octobre, et donc la date limite pour faire ma déclaration URSSAF trimestrielle d'auto-entrepreneur. Ouais, je sais, palpitant et URSSAF dans la même phrase, tu sens venir l'embrouille. Non, c'est vrai que j'ai un poil exagéré. Parce qu'en fait, il n'y avait rien de palpitant dans cette expérience. J'ai renseigné les quelques 1003 euros que j'avais gagnés ce trimestre, j'ai validé le calcul des cotisations, et j'ai payé. Ouais, 1003 euros sur 3 mois, je sais. Quel requin de la finance, prenez garde Bernard Arnault et autres Xavier Niel, j'arrive. Je plaisante, hein. Bien sûr, j'essaie de ne pas laisser tant de succès me monter à la tête. Pour en revenir au sujet, il n'y avait, je le répète, rien de franchement renversant dans cette déclaration URSSAF. Ça m'a pris 10 minutes à tout casser, puis j'ai quitté le site et j'ai repris le cours de ma vie. Parce que je fais partie de cette catégorie de gens pour qui la numérisation des services publics et des démarches administratives est une bénédiction. Quand je pense à la génération de mes parents qui devaient se fader leurs feuilles d'impôt à la main, puis les mettre dans une enveloppe, lécher le timbre pour joindre un échantillon de leur grippe saisonnière, ils n'avaient pas encore le Covid à l'époque, les has-beens, envoyer le tout en prenant en compte les délais de la poste pour être sûr de ne pas dépasser la date limite et croiser les doigts pour que le courrier ne se perde pas en route. Non, vraiment, vive la numérisation des démarches administratives. Enfin, pour moi. Et pour les gens comme moi. Les gens à l'aise avec l'informatique et pour qui utiliser l'ordinateur est une tâche aussi courante que marcher dans la rue, voire plus hein, pour certaines personnes. Sauf que contrairement aux adeptes de la Startup Nation, moi j'ai bien conscience qu'une bonne partie de la population n'a pas cette facilité avec l'informatique, ou n'a pas le temps pour ça, ou s'en fout, hein, parce qu'on a bien le droit de s'en foutre après tout. Le souci c'est que cette numérisation des services publics s'accompagne en général d'une réduction drastique de leurs équivalents physiques, voire de leur suppression. Et autant je suis bien content de pouvoir faire mes démarches administratives en ligne, autant je déteste l'idée qu'on ne laisse aucune alternative. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on laisse alors pas mal de personnes sur le carreau. La fracture numérique, on appelle ça. Une enquête sur l'électronisme en France concluait en 2018 que 23% de la population française déclarait ne pas être à l'aise avec le numérique. Et selon le baromètre du numérique, 2018 toujours, 36% des sondés déclaraient être inquiets à l'idée d'accomplir des démarches administratives en ligne. 36%. Qu'on soit bien clair, hein. Contrairement à une idée reçue, c'est pas juste les vieux. Hein. Ça fait un sacré paquet de monde en fait, hein, 36%. Bon, et puis pardon, mais même si c'était juste les vieux, est-ce que ce serait une raison pour s'en foutre ? Oui, je sais, ils ont voté à 35% dès le premier tour pour le type qui va flinguer nos retraites alors qu'eux en profitent depuis leurs 60 ans, mais pensons aux autres. Les vieux, il y en a des biens. Hein. Non, et puis je dois dire que même moi, qui suis relativement jeune, ingénieur et docteur en informatique de formation, je suis parfois atterré par les extrémités auxquelles cette numérisation à marche forcée nous pousse. Ainsi, récemment, j'étais à la gare de Nice pour prendre un train pour Cannes. Comme les automates étaient pris d'assaut par de longues files de voyageurs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait au plus simple, entre guillemets. J'ai téléchargé l'appli SNCF Connect sur mon smartphone, j'ai passé des plombes à entrer mes infos personnelles, ma carte bancaire, à chercher le train avec le bon horaire, puis à enfin réussir à réserver un billet. Le tout, debout, comme un con, dans une gare bondée où aucun guichet n'était ouvert, là où il y a quelques années encore, j'aurais pu tout simplement tendre un bifton au guichet et puis sauter dans le premier TER venu. Est-ce que là, on n'aurait pas quand même un peu vrillé sur la numérisation? Encore une fois, télécharger une app et entrer des infos dedans, ça m'a un peu gonflé vu le côté ubuesque de la situation. Enfin ça va, je gère. Mais vous imaginez les gens qui galèrent? Eh bien pour les gens qui galèrent, la dernière extrémité s'appelle l'abandonnisme. En gros, face à un numérique que tu n'arrives pas à utiliser, tu lâches l'affaire. Dans mon exemple, tu prends pas le train, mais tu peux aussi laisser tomber des démarches à la CAF ou t'abstenir de faire une réclamation quand EDF se plante sur ta facture d'électricité. Et ça concerne 19% de la population française. 19% qui a déjà renoncé à quelque chose parce que ça impliquait l'utilisation d'Internet. Une personne sur cinq. Une personne sur cinq, c'est énorme. Vous imaginez les Spice Girls sans Jerry Halliwell? Ou les Beatles sans Pete Best? Non, ça c'est pas un bon exemple. Non. Bon, je me répète, mais ça concerne toute la population, y compris la jeune génération. Vous savez, celle qu'on dénomme par cette expression débile de « digital native ». Digital native and my ass is chicken, hein. Alors, sous prétexte que les mômes sont nés avec un iPhone dans les mains, sous prétexte qu'ils passent des heures sur YouTube quand nous, on passait des heures devant les minicum, ça leur donnerait automatiquement des compétences en administration numérique. Comme ça, par magie, pouf, tu fais 3 vidéos TikTok et spontanément, tu sais demander des appels en ligne ou t'inscrire sur les listes électorales. Non, ça marche pas comme ça. Le numérique, ça s'apprend, et apprendre des choses, ça demande du temps et de l'argent. Le problème, c'est que le temps et l'argent, c'est précisément ce que les administrations publiques cherchent à économiser en remplaçant à tour de bras des services physiques par du dématérialisé. Résultat, on remplace ton guichetier par une boîte vocale qui pige jamais rien à ce que tu lui dis, ou par un site web abscon pour qui n'a pas bac plus d'en informatique, et puis des merdaines zizich. Le coût, comme d'hab, il est assumé par le Pékin moyen qui aura le choix entre rejoindre les abandonnistes dont je parlais, ou subir l'humiliation d'aller se faire aider ou assister dans les maisons de services publics ouvertes par France Service. Oui, parce que l'État a quand même fini par mettre en place des endroits où tu peux te faire aider pour tes démarches. Sauf que là, tu n'es plus dans le rôle du citoyen qui se rend dans une administration pour y faire ses démarches, tu deviens l'inadapté, l'enfant qui a besoin de papa-maman pour lui montrer comment on utilise un ordinateur parce qu'il est trop nul pour le faire tout seul. Bouh. Non, France Service, écoutez, c'est mieux que rien. Mais enfin, c'est une béquille qu'on file au service public après leur avoir pété les deux genoux. Moi, en tant que geek, en tant qu'utilisateur enthousiaste du numérique, tout ça me déprime. Parce qu'avec ce genre de méthode, on braque en fait encore plus toute une population qui n'était déjà pas très favorable au numérique. Et comment leur en vouloir quand cette numérisation devient un outil de plus d'aliénation, là où, avec l'April par exemple, nous militons pour que le numérique soit au contraire un vecteur d'émancipation, en permettant aux gens une plus grande maîtrise de leur vie. Et si l'on veut que le numérique soit émancipateur, commençons par réouvrir les services publics et administrations physiques pour arrêter immédiatement de laisser tant de personnes sur le carreau. Puis prenons le temps de démocratiser réellement l'usage du numérique avec des investissements conséquents dans l'éducation populaire. Bon, aliénation, émancipation, démocratiser, éducation populaire, c'est bon, je crois que j'ai coché toutes les cases sur mon bingo de gauchiste du web, alors je vais m'arrêter là. J'envoie toute ma compassion et ma solidarité aux fracturés du numérique, et je souhaite bon courage à celles et ceux qui galèrent avec la numérisation forcée, et je vous dis salut.
Merci de nous rappeler effectivement que l'éthique du logiciel libre, c'est avant tout une question d'émancipation, et tout usage de l'informatique qui oublie une classe de population, toute informatique qui aliène doit être combattue. Et merci aussi de m'avoir rappelé à mon souvenir les minicums, petite mallette de Proust.
Je t'en prie.
J'en profite aussi pour rappeler que si tu interviens bénévolement sur Libre à vous, tu es aussi un auteur, ou ton entrepreneur, comme tu viens de nous l'expliquer, qui a fait le choix de publier l'ensemble de tes œuvres, de ses œuvres sous licence libre, et qui fait ça donc à plein temps, tu n'as pas d'autres activités dites professionnelles. Ta rémunération provient ainsi quasi essentiellement du don de tes lecteurs et de tes lectrices, ou dit autrement, du paiement d'un prix libre par celle-ci et ceci en contrepartie de la libre disposition de tes œuvres. Donc je vous invite donc chaudement à soutenir J si vous appréciez son travail, notamment sa chronique mensuelle. Vous trouverez le lien pour le faire sur la page web de l'émission. De retour sur Cause Commune, nous venons d'écouter donc une rediffusion d'une humeur de 10 sur les fracturés du numérique. Et il reviendra en direct la semaine prochaine pour nous faire part de ses déboires avec France Connect. Edgy lui-même sera-t-il un fracturé du numérique? Et puis je vais me citer moi-même, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller soutenir Edgy. La chronique était enregistrée il y a un an, mais voilà, il a toujours besoin aussi du soutien des personnes qui apprécient son travail. N'hésitez surtout pas à aller le soutenir. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Et dans les annonces, donc, une triste nouvelle de nos amis de Zyklibrambib. On apprend sur leur site que, je cite, « Après 11 belles années d'existence, le projet Zyklibrambib devrait tirer sa révérence prochainement ». Zyklibrambib était une précieuse, enfin est toujours d'ailleurs une précieuse ressource pour Libre à vous, pour trouver des musiques sous licence libre, et bien sûr une importante contribution pour la culture libre en général. Une très belle pépite libre pour citer Jean-Christophe Becquet. Merci et bon vent à toutes ces personnes qui ont fait vivre ce très beau projet. Et si vous ne connaissez pas Zyklibrambib, nous vous invitons chaudement à découvrir ce site et à écouter l'interview que nous avions réalisée avec l'un des cofondateurs du projet, Antoine Viry, dans le Libre à vous numéro 33 du 9 juillet 2019. Actu plus réjouissante, samedi 21 et dimanche 22 octobre 2023 auront lieu les journées Open Food Facts qui se tiendront à l'Académie du Climat à Paris. L'événement se déroulera en anglais, toutefois, et c'est assez rare pour être souligné, l'organisation précise qu'il est possible de les contacter si on n'est pas à l'aise avec l'anglais afin d'essayer d'organiser de trouver des solutions pour pouvoir quand même suivre l'événement. Un formulaire est disponible pour s'inscrire. Alors l'événement est gratuit, mais les places sont limitées. Donc si vous êtes intéressé par ces journées Open Food Facts, je vous invite vraiment à rapidement vous y inscrire. Et il est également précisé que des aides sont disponibles pour un coup de pouce pour couvrir les éventuels frais de déplacement. Et comme d'habitude, je vous invite à consulter le site de l'Agenda du Libre, l'agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous, ainsi qu'un annuaire des GUL, donc des groupements d'utilisateurs et d'utilisatrices des logiciels libres qui font vivre la culture libre partout sur le territoire. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Xavier Berne, Rémi Robillard, Charlotte Thomas, G. Au malaise de la régie aujourd'hui, Thierry Holville, que je remercie d'autant plus chaleureusement que c'était probablement sa dernière contribution à la régie de Libre à vous, mais contribuer à d'autres projets à l'April, notamment aux photos. Voilà, aux photos de l'April, nous avons un site voilà, où nous mettons les photos de nos participations à différents événements et aussi que nous réalisions pendant l'émission. Et en plus, une dernière régie sans le moindre à cause, c'était vraiment nickel. J'étais comme un coq en pâte dans le studio. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Denis Girodin, Langue 1, Julien Haussmann, bénévole à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibault, bénévole à l'April, ou Frédéric Couchet, le délégué général. Vous trouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de références pendant le sujet long aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons avec plaisir directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions, les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio au 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu mardi 24 octobre à 15h30. Notre sujet principal portera sur les œuvres littéraires libres et libérées. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 24 octobre et d'ici là, portez-vous bien !